Avec Adrien Delgrange pour votre journal d'Haïti et des Amériques. Bonjour Adrien.
Bonjour à tous. De la Nouvelle-Orléans à Port-au-Prince, de Bogota à Avignon, soyez les bienvenus.
RFI.
À la une de cette édition du 12 juillet aux États-Unis, la tempête tropicale Barry menace d'inondation la Louisiane et notamment la Nouvelle-Orléans. Aux États-Unis toujours, Donald Trump voulait connaître la nationalité de tous les résidents américains lors du prochain recensement aux États-Unis. Eh bien, la Cour suprême américaine lui dit non. Cette nouvelle attaque en Haïti, dans un bidonville, celui de la Saline à Port-au-Prince, a fait avant-hier 4 morts. Et puis enfin, un mouvement de protestation des urgentistes depuis ce matin a commencé en Guadeloupe.
Radio France Internationale. Las voces del mundo.
Et pour commencer ce journal, ces arrestations massives de clandestins aux États-Unis annoncées pour ce week-end, c'est une déclaration du président américain. L'opération de police devrait toucher au moins 10 grandes villes du pays, sera lancée demain ou après-demain, d'après le New York Times. Selon les responsables cités par le quotidien, des raids seront menés par les services de l'immigration et des douanes. Ils viseraient au moins 2000 familles ayant fait l'objet d'une ordonnance d'expulsion. Les démocrates, eux, s'inquiètent de voir à nouveau des enfants séparés de leurs parents et demandent expressément au président américain de renoncer à cette opération. Écoutez, Chuck Schumer, le responsable de la minorité démocrate au Sénat.
Cruelty. La cruauté semble être l'intérêt de ces raids. Il ne s'agit pas d'un effort pour expulser de dangereux individus. Non, c'est une force brutale destinée à semer la peur au sein des communautés de migrants. Ce sont des gens qui tentent pourtant de préserver leur famille, leurs enfants, leur vie. Et en dépit de cela, le président, aiguillé par les médias d'extrême droite, essaye de faire croire aux Américains que ce sont tous des criminels. La politique du président n'est pas seulement cruelle, ça c'est le pire, elle est aussi stupide. Pour utiliser intelligemment nos ressources sur le plan migratoire, notre administration devrait se concentrer sur la toute petite minorité de criminels, pas sur les familles, pas sur les enfants de 10 ans. Ces raids ne rendront pas l'Amérique plus sûre, ils ne régleront pas notre problème de migrants. Ils vont au contraire terroriser des familles innocentes et séparer les enfants de leurs parents. Et je préviens le président Trump, les photos de ces raids ne seront pas jolies. Et beaucoup d'Américains qui sont d'accord avec lui sur bien des sujets seront écœurés. Président Trump, vous allez devoir renoncer à cette politique cruelle, car le peuple américain est bien meilleur que vous. Donc je prie le président d'annuler ces raids.
L'élu démocrate Chuck Schumer et puis Donald Trump qui veut compter le nombre d'immigrés aux États-Unis. Après plusieurs semaines de vives polémiques, le président américain renonce à ajouter une question sur la nationalité au questionnaire du recensement prévu l'an prochain. La question était « Quelle est votre nationalité ?» Eh bien, il recule suite à la décision de la Cour suprême qui estime que l'administration n'a pas fourni d'arguments convaincants pour inclure cette question. Ceci étant dit, le président va maintenant demander à la place à toutes les agences gouvernementales de lui fournir les informations dont elles disposent.
Nous choisissons une nouvelle méthode pour assurer un décompte complet de la population non américaine de ce pays. Aujourd'hui, je vais signer un décret présidentiel pour mettre ce plan en action immédiatement. J'ordonne à chaque département et à chaque agence fédérale de fournir au département du commerce tous les documents qui concernent le nombre de personnes citoyennes et étrangères de ce pays. Ils doivent fournir toutes les données à leur disposition immédiatement.
L'ajout d'une question sur la nationalité aux États-Unis dans le recensement avait été abandonné il y a plus de 60 ans. C'était le président américain.
RFI, la radio del mundo.
Place à la revue de presse des Amériques. Nous sommes à présent avec Arim Lipold. Bonjour Arim.
Bonjour Adrien, bonjour à tous.
Et nous restons avec vous Arim aux États-Unis. Avec, je vous le disais en titre, la Louisiane qui se prépare à l'arrivée de l'ouragan, l'ouragan Barry.
Oui, la Louisiane qui n'a pas encore oublié l'ouragan Katrina qui avait tué plus de 1800 personnes. C'était il y a 14 ans, rappelle Washington Post. Du coup, bien cette nouvelle tempête tropicale qui se transformera en ouragan ce soir ou samedi matin sera un test majeur pour savoir si les digues vont tenir et si les pompes vont fonctionner, car la Nouvelle-Orléans, Adrien, avait investi près de 14 milliards de dollars dans une infrastructure anti-inondation. Eh bien, le gouverneur de la Louisiane a demandé aux habitants de se préparer, de vérifier les endroits où ils pourraient se mettre à l'abri, le cas échéant, et de suivre les instructions, bien sûr, des autorités. Alors, selon la mairie de la Nouvelle-Orléans, Il n'y a pas d'évacuation prévue. Pour l'instant, ces préparatifs sont aussi à la une de la Times Picayune, journal de la Nouvelle-Orléans, les habitants de la côte sud de l'État, épaulés par les autorités, renforcent déjà les digues à l'aide des sacs de sable, écrit le journal. Les responsables politiques de la Nouvelle-Orléans restent sereins, rapporte le quotidien. Les eaux du Mississippi vont certes monter, mais pas de manière très dangereuse. Les digues devraient tenir, expliquent les autorités municipales au journal.
L'actualité sud-américaine avec vous au Brésil à présent, à Rimpas. Une semaine sans polémique provoquée par le président Jair Bolsonaro. Cette fois-ci, cela concerne son fils Eduardo.
Et le président songe à nommer son plus jeune fils qui vient de fêter ses 35 ans ambassadeur à Washington. Explication du père à lire dans la presse brésilienne, dans le journal Le Globo par exemple. Eduardo, qui est actuellement député, est un ami des enfants de Donald Trump. Il parle anglais, espagnol, il a une très large expérience dans le monde. À mon avis, il peut être la bonne personne et pourrait parfaitement s'occuper du travail à Washington. Non, ce n'est pas une blague, écrit le journal brésilien Diario do Centro do Mundo. C'est tout simplement du népotisme.
Alors, ce que vous avez relevé, Harry, mais ce qui est intéressant, c'est que le journal s'est empressé de vérifier le niveau d'anglais du fils du président à l'aide des vidéos postées sur YouTube.
Et verdict du journal, oui, il parle anglais, mais on ne le comprend pas très bien à cause de son fort accent. Accent brésilien. Plus sérieux, le commentaire de Folha de São Paulo, une éventuelle nomination d'Eduardo Bolsonaro, qui devrait de toute façon être confirmée par le Sénat, aurait des conséquences politiques et elle fragiliserait le ministre des Affaires étrangères, Ernesto de Araújo, qui se transformerait en une sorte de reine d'Angleterre, à savoir en un ministre sans véritable pouvoir, écrit le journal.
Alors passons à présent à l'actualité vénézuélienne. Le gouvernement et le opposition ont décidé de mettre en place une plateforme de dialogue permanent.
Et c'est à la une du journal vénézuélien El Universal, une annonce faite par le gouvernement norvégien qui, vous savez, supervise les discussions entre le gouvernement et l'opposition. Une troisième rencontre entre les deux parties s'était d'ailleurs achevée mercredi dernier sur l'île caribéenne de la Barbade.
Et peu d'informations à Raymond filtré dans la presse.
Et le Miami Herald s'en étend d'ailleurs et titre sur la confusion qui, selon le journal, entoure ce dialogue et l'Universel rapporte des propos triomphalistes de Diosdado Cabello, le président de l'Assemblée constituante, composée uniquement, rappelons-le, de partisans du président Nicolas Maduro. Nous sommes en train de gagner le jeu, a déclaré le numéro 2 du pouvoir vénézuélien, tout en écartant l'idée d'une élection présidentielle anticipée.
Et on termine cette revue de presse avec un coup d'œil à la presse haïtienne à Rima.
Le journal Le National titre sur, je cite, des révélations fracassantes du directeur général de la police nationale, Michel-Ange Guédéon. En fait, lors d'une réunion avec la commission sénatoriale Justice, Sécurité et Défense nationale hier, il a fait certaines révélations concernant l'insécurité et la contrebande en Haïti. Des révélations rapportées par le sénateur Sorel Jacinthe, le directeur général de la police accuse certains responsables politiques de, je cite, connivence avec les chefs de gang.
Merci beaucoup Harim, Harim Lipold, pour la revue de presse des Amériques sur RFI.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
Tout autre sujet qui concerne Haïti, les attaques menées par des gangs contre la population, des attaques qui deviennent désormais quotidiennes. Mercredi dernier, une nouvelle fois, le bidonville de la Saline a été pris en otage par des bandes armées venues rançonner des marchands. Lors d'une conférence de presse à laquelle s'est rendue notre correspondante Amélie Baron, le porte-parole de la police judiciaire, Gary Desrosiers, évoque un bilan d'au moins 4 morts.
Pour le moment, les agents du SWAT et les autres unités spécialisées sont en train de mener des opérations dans cette zone. Des chiffres sont annoncés concernant le nombre de personnes tuées ou blessées par balle. Le directeur départemental de la police m'a dit qu'ils ont des informations faisant état d'au moins 4 personnes tuées. Mais ce qui arrive dans ce genre de situation, c'est que les familles amènent directement le corps à la morgue. On répète que ce n'est pas une bonne pratique, parce qu'il est toujours mieux que la police fasse le constat de la mort avec un juge de paix, afin qu'on puisse entrer ces informations dans nos bases de données.
Questionné sur les difficultés d'empêcher les attaques des gangs, le porte-parole de la police judiciaire rappelle qu'il leur est compliqué de mener des opérations dans ces quartiers populaires densément peuplés. Gary Desrosiers en appelle donc à la collaboration collaboration des habitants.
Généralement, les bandits sortent sur les grands axes pour commettre leurs actes et ensuite ils courent se cacher en entrant dans les petits corridors où la population vit. Et on connaît justement la peur des habitants, et c'est ce qui me fait dire aux habitants qu'ils n'ont pas intérêt à protéger et cacher les bandits car ils sont vos ennemis. Les gangs peuvent à n'importe quel moment attaquer un de vos proches, ou vous-même, vous pouvez être victime.
Lors du massacre commis en novembre dans le quartier de la Saline, qui a duré 14 heures et qui, selon le bilan des Nations Unies, a causé la mort d'au moins 26 personnes, jamais les unités de police à proximité ne sont intervenues. L'ONU a dénoncé cette inertie dans un rapport publié le mois dernier, mais que la police judiciaire n'a apparemment pas feuilleté.
On ne se dédouane pas de nos responsabilités. Comme je n'ai moi-même pas encore vu ce rapport, que ça n'a pas été discuté avec les plus hautes autorités, je ne suis pas au courant de la réponse qu'elles ont sur ce rapport. Il est certain que nous serons une autre fois en mesure de donner l'avis du haut commandement suite à ce rapport dont vous parlez.
Et avant d'avoir été même questionné sur le cas de disparition du photojournaliste Vladimir Le Gagneur, le porte-parole de la police judiciaire a transmis les rares informations disponibles sur ce dossier.
On annonce qu'il y a eu 16 arrestations de réalisées dans le cadre de ce dossier. Nous avons réalisé qu'il y a un lien entre le quartier de Grand Ravine et celui de Village de Dieu. C'est de là d'où viennent les personnes arrêtées, parce qu'elles seraient impliquées. Je ne dis pas impliquées dans la mort, car c'est une donnée à vérifier. Jusqu'à présent, les analyses ADN sont au niveau du laboratoire et les résultats du test ADN ne sont pas encore prêts.
Les ossements ayant été prélevés 2 semaines après la disparition du photojournaliste Vladimir Le Gagneur, soit le 30 mars 2018, cela voudrait dire qu'il faut plus de 15 mois à la police haïtienne pour réaliser un test ADN. Amélie Baron, Port-au-Prince, RFI.
Radio France Internationale, à Radio Mondiale.
La Colombie est à Avignon. Le festival de théâtre bat son plein en ce moment dans le sud de la France. Intéressons-nous à ce spectacle écrit par Fabrice Melchiot. Ma Colombie est l'histoire personnelle du comédien Omar Porras qui très jeune voulait être un clown dans un pays en guerre. Marie-Carolina Pigna du service Amérique latine d'RFI l'a rencontré.
C'est l'histoire d'un petit Colombien sur le trottoir de Bogota.
Omar Porras, merci beaucoup d'être devant les micros de Radio France Internationale. Vous êtes là à Avignon pour présenter cette pièce qui parle de vous, qui parle de votre pays natal, la Colombie. Et vous êtes tout seul sur la scène. C'est un exercice difficile ?
Non, ce n'est pas difficile. C'est extrêmement difficile. Ma Colombine, c'est l'histoire de nous tous. Tous les voyageurs, les émigrants, tous ceux qui se sont battus pour une carte de séjour, pour tous celles et ceux qui croient un rêve, qui croient que le monde est pour nous tous et que nous pouvons tous semer la graine qui nous a été donnée à chacun de nous, que nous pouvons la semer dans une petite parcelle de n'importe quel pays où il n'y a pas de frontières. Donc ça parle de nous tous. C'est un voyage, un petit grand conte philosophique que ce grand poète Fabrice Melchior a écrit pour moi.
Et alors vous parlez d'une graine qu'on a semée en vous depuis l'enfance. D'abord c'était le don de l'écriture et la lecture. Et après cette envie de faire du théâtre.
Oui, j'ai eu la chance de grandir dans une famille de paysans qui ont dû quitter leur terre et se retrouver dans la grande ville, qui n'avaient pas eu la chance d'avoir une éducation, tristement, mais qui se sont battus pour nous aider à prendre conscience de la nécessité de lire et d'écrire. Et puis, évidemment, oui, ma mère qui ne savait pas ni lire ni écrire était une visionnaire qui m'a fait comprendre qu'avec un stylo, on peut creuser un tunnel dans une montagne, avec un stylo et la persévérance. Et voilà, c'est vrai, je suis content, oui, c'est beau d'être à Avignon, d'être en France, de faire du théâtre en Suisse. C'est l'effort de toute une culture, de toute une tradition.
Quel chagrin de devoir m'excuser, mais je voudrais parler avec Liliana Arrebatos, Gosse Paganoña, Agüe Pajei, Genian de la part d'Alberto, Agüe Teja Corrida, Gusate Gangan Gangon. Je m'appelle Marquitaki Puechicha, Fuche, un nivel, je viens de Colombie.
Qu'est-ce que c'est pour Omar Porras après presque 40 ans d'exil, votre Colombie?
La Colombie, c'est un pays qui vit en moi, comme dirait une chanson del Gran Combo de Puerto Rico. Yo me levanto por la mañana, me tomo un baño y me perfumo. La música, los recuerdos. Ah, voilà, j'étais en français, je me suis, voilà, c'est les chips qui... Oui, je disais...
C'est la chanson qui vous a fait switcher vers l'espagnol, peut-être.
Voilà, c'est ça. Je disais qu'il y a toujours une petite fibre en nous, un petit fil qui fait que la brise, elle fait bouger, ou une petite goutte de la rosée qui est sur la fleur qui fait briller la Colombie, et même dans les paysages des Alpes... C'est vrai que maintenant que je joue ce spectacle, il y a beaucoup de choses qui ressortent. Tout ça, c'est vraiment un voyage dans la mémoire incroyable, extraordinaire.
Merci beaucoup, Omar Porras.
Avec plaisir.
Omar Porras se livre au micro de Maria Carolina Pigna au Festival d'Avignon. À réécouter quand vous voulez sur RFI.fr.
Le journal de l'Outre-mer.
Présenté par Benoît Ferrand. Bonjour Benoît.
Bonjour Adrien.
En Guadeloupe, le service des urgences du centre hospitalier universitaire n'accepte plus depuis ce matin que les cas les plus graves, Benoît.
Les urgences dites vitales, c'est le dernier épisode d'une grève commencée il y a 2 jours et aussi d'une situation qui perdure en fait depuis l'incendie du CHU de la Guadeloupe en novembre 2017. Aujourd'hui, 20 mois plus tard, les personnels se disent au bout du rouleau, ce que comprend le directeur du CHU, Gérard Cotelon, mais pas au point, ajoute-t-il, d'accepter une quasi-fermeture des urgences. Il est au micro de Chantal Horn.
Je tiens à signaler que quand même, le CHU a dépensé en 6 mois plus de 100 000 euros en frais d'annonce et en frais d'agence pour recruter des médecins. Donc voilà, ça donne les moyens. Pour autant, le fait est, c'est qu'on manque de médecins sur le territoire, on manque de médecins urgentistes. La seule chose que je ne peux pas accepter, c'est de fermer les urgences ou de ne prendre en charge que les urgences vitales. La population continuera à venir et s'il faut aller jusqu'à la réquisition de médecins, je vais jusqu'à la réquisition. Ma responsabilité, c'est que le CHU puisse continuer à assurer sa mission dans le contexte difficile que l'on connaît, hein, qui existe depuis très longtemps, et il s'agit de régler ce problème. Qu'on ne réglera pas d'un coup de baguette magique, le mal, il est assez profond. On fait notre boulot sereinement, voilà, donc nous faut des médecins pour les urgences. Je dis 4 médecins par équipe, oui, c'est l'effectif qu'on doit avoir, hein. On va se donner les moyens de les avoir.
On reste en Guadeloupe avec une autre structure où ça ne va pas bien, et c'est le moins que l'on puisse en dire. C'est l'URMA, l'Université Régionale des Métiers et de l'Artisanat, qui se trouve à Basse-Terre. Reportage Ronan Poney.
Dans les salles de classe, c'est un peu l'abandon. Les apprentis, pas vraiment motivés. Il faut dire que pour eux, eh bien, c'est une vie de galère.
Je suis en CAP HCR, service hôtelier restauration café. Je gagne 410 euros par mois. Pour aller au CFA, je débourse au moins 400 et quelques euros. Pour les frais de transport, c'est 50 euros pour manger ici. Là, je suis en déficit. Là, j'ai rien du tout. J'ai moins 5 euros sur moi. C'est sur mon compte.
Taux d'abandon des apprentis guadeloupéens. Européen ici, 65%. C'est plus facile d'aller se former en apprentissage à Lyon, Bordeaux, Marseille, Paris. Il y a de la demande et des facilités. Ici, c'est une galère sans nom à Basse-Terre. Le professeur de boulangerie, Christian Élisée, délégué syndical UGTG, n'en revient pas. De l'état de délabrement de l'URMA. Aujourd'hui, par exemple, pas de farine en boulangerie.
En matière d'approvisionnement, très souvent, nous en manque d'ingrédients. Là, bon matin, on va rentrer pas ni farine.
L'URMA ne dépend plus de la région, qui ne finance plus. Ce sont les branches professionnelles qui décideront. Mais les profs, comme les apprentis, se demandent encore pourquoi. L'URMA est installée à Basse-Terre, loin, très loin de leurs entreprises d'accueil et du milieu économique dynamique de la Guadeloupe.
Bon après-midi, bon week-end Adrien, à lundi.
Merci beaucoup Benoît Ferrand pour toutes ces informations. C'est la fin de ce journal. Merci aussi à vous de l'avoir écouté.